Bonsoir, bonsoir à tous, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez aujourd'hui sur Radio Réveil. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 septembre 2025. Nous sommes en direct sur Radio Réveil dans le cadre du partage de la parole. Je ne suis pas seul sur le plateau, je suis avec Edmond.
Bonsoir, bonsoir, chers auditeurs, bonsoir, chers frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne encore la force et nous encourage encore pour que nous puissions bien partager encore ce soir.
Gloire à Dieu. Donc, sans plus tarder, on va prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour ce temps de partage. Nous prions au nom de Jésus que tu disposes les cœurs dans les maisons, dans les voitures, pour ceux qui écoutent en direct et pour ceux qui écouteront en différé. Nous te louons, nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Amen.
Alors, je ne sais pas si le téléphone du direct est là. Est-ce qu'on l'a? Ok, on pourra le connecter pour prendre les appels en direct. Alors, donc, ce soir, nous voulons partager sur un passage de la Bible. Le passage que nous voulons partager ce soir est dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. 1 Timothée chapitre 5 au verset 8. Voilà, donc pour ceux qui nous prennent en direct, vous pourrez appeler. Alors on va vous donner le numéro que vous puissiez appeler si vous souhaitez participer avec nous en direct. Donc, vous pourrez appeler au 074 23 17 29, au 074 23 17 29. Donc, nous allons partager sur un passage de la Bible, sur 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8. Qu'est-il écrit? Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Il est écrit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Alléluia. C'était un sujet
Amen,
dont on
amen.
discutait tout à l'heure avec des frères, et j'ai eu à cœur qu'on le partage. Hein? Edmond, qu'est-ce que tu penses de ce sujet?
Voyez, le sujet, il est vraiment, c'est bon sujet, c'est bon, ça va.
Alors, parce que, en fait, y a, dans la foi chrétienne, en fait, on trouve beaucoup d'extrêmes. Quand on dit les extrêmes, c'est des gens qui vont d'une extrémité, soit dans l'extrémité de l'application d'un principe biblique, soit dans l'extrémité de la non-application. D'accord? Il y a des gens, par exemple, quand un verset de la Bible va dire de faire ça, ils vont le faire à l'extrême, et il y en a qui vont ne pas le faire à l'extrême. Et puis, il y a quelques personnes qui ont la maturité de comprendre les équilibres qui se trouvent dans la parole de Dieu. Évidemment, il y a des choses pour lesquelles la Bible n'interdit pas d'être dans les extrêmes. D'accord? Se sanctifier, la Bible n'interdit pas de se sanctifier à l'extrême.
Amen.
Voilà. Aimer le Seigneur, la Bible n'interdit pas d'aimer le Seigneur à l'excès. D'accord? Mais par exemple, dans donner l'argent, aider les gens, il y a un certain équilibre que la Bible nous demande d'avoir. Parce que si on n'a pas cet équilibre dans la vie, on va se retrouver dans des situations qui sont difficiles. Donc, on va prendre le sujet pas à pas. On va prendre le premier volet qui concerne les chrétiens qui donnent à tous les programmes à l'église. Moi-même, je suis dirigeant d'église. D'accord? Je veux que les frères et les sœurs donnent quand il y a des besoins. Donc ce que je dis, ce n'est pas pour que les frères et les sœurs ne donnent pas. Mais maintenant, il est aussi de mon devoir en tant qu'enseignant de la parole de pouvoir dire toute la vérité de la parole, pas parce qu'on veut avoir les moyens pour financer l'œuvre de Dieu, qu'on va laisser les frères se mettre dans le bourbier. Il faut pouvoir mettre les équilibres de la parole. Alléluia.
Amen.
Donc, on trouve dans les églises, une catégorie de personnes, par exemple, qui peuvent donner de l'argent tout le temps, pour tous les programmes, pour tous les types d'offrandes, mais qui, par exemple, à la fin du mois, n'ont pas payé le loyer. On trouve ce genre de catégorie de personnes dans l'église. Alors, est-ce que, à la lumière des Écritures, ou même le bon sens de la vie, pourrait justifier que quelqu'un a décidé d'aller donner l'argent dans la caisse de l'église, mais n'a pas pu honorer le loyer de son bailleur? Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je pense que ce n'est pas normal, ce n'est pas normal déjà. Vaut mieux d'abord, comme le passage le dit bien, si quelqu'un ne prend pas soin de siens, et principalement de ceux de sa famille, ça veut tout simplement dire que si tu ne payes pas, si nous ne payons pas le loyer, ce qui veut dire que c'est ni toi-même d'abord et la famille qui seront dans des problèmes. Ta famille ne pourra pas bien dormir, tes enfants ne seront pas à l'aise parce que tu n'as pas payé le loyer. Mais comme disait le frère, il y a des personnes qui donnent l'argent à l'église et ils préfèrent rester sans argent, sans payer leur loyer, mais ils préfèrent donner l'argent à l'église. Donc, vaut mieux d'abord restituer, arranger d'abord toutes les choses de la famille. Quand tu vois que ta famille, c'est déjà bon, maintenant, le reste qui peut rester, on peut donner à l'église. Mais moi, c'est un peu ça que je peux dire là. C'est bon.
Voilà. Parce que, en fait, il y a un passage de la Bible, je vais le retrouver. Merci Seigneur. Nous parlons des chrétiens qui donnent à l'excès en fait et qui n'arrivent pas à honorer
donc c'est
leurs engagements. Alors, je vais retrouver le passage pendant qu'on partage. Alors, donc, on a cette catégorie de personnes-là qui sont dans les excès. C'est-à-dire, leurs enfants vont se retrouver sans rien à manger au motif de la foi. Vous voyez ? Ce qu'on doit comprendre en tant que chrétien, c'est que la foi que nous on a, l'engagement qu'on a envers le Seigneur, ne doit pas avoir pour effet d'impacter négativement nos enfants. Pourquoi ? Parce que ton enfant qui n'est pas encore converti n'a pas la même foi que toi. C'est pourquoi, par exemple, la Bible dit quoi ? Que même entre les chrétiens, qu'il ne faut pas qu'on discute, par exemple, sur les aliments. Quelqu'un dans, par exemple, vous prenez Romains 14. Romains 14 nous parle des discussions qu'il y avait entre les chrétiens de Rome qui estimaient qu'il y avait des jours qui étaient plus longs que les autres, d'autres plus courts, d'autres qui estimaient qu'il ne fallait pas manger de viande, d'autres qui estimaient beaucoup de choses. Paul va les recadrer en disant qu'il faut éviter ce genre de discussion. Pourquoi ? Et il faut éviter de choquer les autres parce que ta foi, si toi tu as la foi pour faire quelque chose, garde-la pour toi. Paul fait comprendre dans 1 Corinthiens chapitre 8 que par rapport aux aliments, si tu vas manger, d'accord, dans un temple, des idoles, alors que tu as la connaissance qu'en réalité il n'y a pas d'idole, mais qu'à cause de ta foi tu fais murmurer l'autre, d'accord, tu fais pécher celui pour lequel Christ est mort à la croix. Donc ça veut dire que ta foi ne doit pas avoir, parce que tu as une foi excessive, ne doit pas avoir pour objectif de faire pécher les gens. Donc la foi doit avoir un certain équilibre. Sinon, on a une foi en fait, qui va dans tous les sens, où en fait on se dit, parce que j'ai la foi, je vais faire les choses comme ça. Vous voyez ? Donc ça, ce n'est pas normal. Ce genre de choses, ce sont des choses qu'il faut que les chrétiens arrêtent en fait. Il faut que les chrétiens arrêtent. Parce que quand on fait ça, ben on expose ses enfants. On expose ses enfants. Et beaucoup le font parce qu'on leur a promis des bénédictions derrière également. S'aimer, vous allez avoir des bénédictions. Vous savez, pour obtenir la bénédiction de Dieu, ce n'est pas l'argent.
Amen. Amen.
Ce n'est pas l'argent.
Amen.
C'est l'obéissance. L'argent que tu donnes doit être un signe d'obéissance parce que Dieu te l'a demandé. De même que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac et qu'Abraham a obéi, Dieu a dit, je vois maintenant que tu me crains et que tu n'as pas refusé de m'offrir ton fils. Donc ce que Dieu regarde, c'est l'obéissance. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Samuel que l'obéissance, 1 Samuel 15, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et les holocaustes. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, c'est l'obéissance.
Amen.
Ce n'est pas le don de l'argent, mais le don de l'argent qui est basé sur l'obéissance parce que Dieu t'a donné une instruction de le faire, soit dans la Bible, d'accord, soit parce qu'il t'a parlé directement. Alors, petite parenthèse, parce que les gens vont dire, oui, mais dans la Bible, on donnait l'argent, on donnait les dîmes tous les jours. Non, faux. Les dîmes, parce que dans la Bible, on parle des dîmes. Les dîmes étaient, quand on dit les dîmes, c'est parce qu'il y avait plusieurs dîmes, d'accord? Les dîmes étaient données une fois par an. Une fois par an. Les dîmes n'étaient pas données tous les jours. Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises, on fait la dîme à chaque culte. On met un panier pour les dîmes, un panier pour les offrandes. Et laissez-moi vous dire, la dîme était un impôt qui était prélevé sur le peuple pour payer les Lévites. Et un impôt, par principe, se calcule toujours sur le bénéfice net. Ça veut dire quoi? Que si je suis commerçant, j'achète par exemple le piment pour 10 000, j'ai revendu, tout ce que j'ai vendu m'a donné 15 000, je vais payer, je devrais, pour ceux qui sont adeptes de la dîme, je devrais payer la dîme sur les 5 000 et non sur les 10 000. Parce que les 10 000, c'est le capital. C'est sur les 5 000 que je devrais, si je dois payer la dîme, c'est sur les 5 000 que je devrais prélever les 10 %. Donc, les dîmes étaient payées une fois par an. Donc, en fait, cette histoire de dire donner l'argent tous les jours, au motif que tous les jours on fait la dîme, si tu as grand, il y en a qui vont même loin. Si quelqu'un t'a donné 500, prends 10% à l'intérieur, tu donnes la dîme. Non, la dîme, ce n'était pas sur des offrandes. La dîme, c'était sur le fruit du travail de la personne. Ceux qui prenaient la dîme sur les offrandes, c'était les Lévites qui prélevaient la dîme sur la dîme qui était reversée au temple. Bon, bref, c'est pas l'enseignement sur la dîme. C'était pour pouvoir aborder cette parenthèse-là parce que j'ai parlé de donner tous les jours. Donc, Edmond, est-ce que tu veux faire un commentaire?
Oui, c'est juste, comme tu disais, sur les murmures. Et dans les assemblées, c'est ça, parce que c'est ce qui se passe. Les gens, on les impose les choses et ils disent oui, quand on les bénit, oui. Et après, c'est pour murmurer derrière. C'est comme disait le frère, qu'il ne faut pas faire des choses après. Le peuple va murmurer contre toi ou bien quelqu'un va murmurer contre toi. Tu vois? Donc, tu fais pécher, c'est faire pécher le peuple ou bien faire pécher la personne. Donc, c'est des maîtres, des principes, c'est de faire des choses dans la vérité, normalement. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je peux dire. Hein.
Voilà, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Alors, Edmond, lis-nous 2 Corinthiens chapitre 8.
2 Corinthiens 8.
Le verset 12.
2 Corinthiens 8, verset 12. J'ai fait la lecture. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas.
Ah. Relis encore pour que ce soit bien clair.
La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas.
Ah. Dans le contexte, c'est Paul qui rappelle, d'accord, la collecte qui était faite dans l'église de Corinthe en faveur des saints d'Israël. D'accord? On est dans ce contexte-là. Il leur avait demandé de faire une collecte. Hein? Quand on lit au verset 11, il dit « Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens, à répondre à l'empressement que vous avez mis à vouloir. » Il dit bien « selon vos moyens ». Et il complète la bonne volonté, quand elle existe, est agréable. Agréable. En raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Il y a des chrétiens même qui vont s'endetter pour venir donner dans l'église. Elle n'est pas agréable. Elle n'est pas agréable. Que tu t'endettes pour toi-même, oui, mais tu ne peux pas t'endetter pour venir donner dans l'église. Vous voyez ? Ce n'est pas une bonne volonté qui est agréable. Voilà un problème. Et dans le même élan, en fait, on trouve des gens dans l'église qui ne donnent pas à leurs parents parce qu'ils doivent donner à l'église.
Amen, amen.
Et or, on a lu dans 1 Timothée chapitre 5, verset 8, notre passage de base, c'est que si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. On va le relire parce qu'il y a d'autres éléments qui sont importants dans ce passage. À la suite, on va le relire. Je vais d'abord lire à partir du verset 3. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 5, à partir du verset 3. Il est écrit « Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. » Écrit, hein? Que si une veuve a des enfants, au lieu que l'Église l'aide, ses enfants doivent d'abord l'aider parce que les enfants doivent apprendre à rendre aux parents ce qu'ils ont reçu d'eux.
Amen.
Bon, on a des chrétiens qui sont dans les églises, qui ne donnent plus à leurs parents au motif que les parents sont sorciers. Ils auraient vu une vision où les parents sont sorciers. Bon, même s'ils sont sorciers, il faut leur donner. Même si ce sont les plus grands sorciers du Gabon, du monde, il faut leur donner. La Bible nous dit, car cela est agréable à Dieu. Alléluia.
Amen, amen.
Car cela est agréable à Dieu. Maintenant, Paul dit maintenant, au verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Donc, on doit s'occuper de ses parents.
Amen.
Maintenant, on va lire un passage, parce que ce problème-là, Jésus a traité ça. Parce que le problème-là existait déjà à l'époque de Jésus. Et il a laissé ça pour que ça nous serve d'exemple. On va lire Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. On va lire à partir du premier verset. Je vais faire la lecture. On va aller pas à pas. Alors les pharisiens, des pharisiens et des scribes, vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? C'est une question que Jésus pose.
Ah oui.
Vous, les pharisiens, d'accord, et les scribes, pourquoi vous transgressez la parole de Dieu au profit de vos traditions? Donc, en fait, nos traditions peuvent, je ne dis pas nous font, mais peuvent nous faire transgresser la parole de Dieu. Ça veut dire que à chaque fois qu'on veut s'aligner à la tradition, on doit s'assurer que la tradition n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Vous voyez?
Amen.
Parce que si la parole de Dieu est en contradiction avec la tradition, je dois suivre la parole de Dieu.
Amen.
Si la tradition et la parole de Dieu sont au même niveau, je suis la parole de Dieu qui est égale à la tradition. Parce que moi, mon rôle, c'est de suivre la parole de Dieu. En fait, je ne suis même pas la tradition. Je suis la parole de Dieu qui vient confirmer la tradition. Alléluia.
Amen.
Donc, la tradition peut nous amener à transgresser les commandements de Dieu. Alors, on lit la suite. Car Dieu a dit, Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Ça, c'est ce que la loi disait. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme.
Amen.
Bien-aimé, amène d'abord ton offrande, même si les autres n'ont rien. Donne d'abord l'offrande à l'église. Non. Non. Ce dont j'aurais pu assister mon père et ma mère est déjà consacré à Dieu. Non, j'ai déjà mis dans l'enveloppe. L'enveloppe-là est déjà consacrée à Dieu. Je ne peux plus ouvrir ça. Ouvre l'enveloppe, donne à ton père et ta mère. C'est écrit dans la Bible.
Amen.
Honore ton père et ta mère. C'est un commandement avec promesse. Même la loi des hommes nous enseigne. Quand vous lisez le code civil gabonais, qui a déjà lu le code civil parmi vous deux ici? Non, vous n'avez pas encore lu. Il faut lire le code civil. Vous savez, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le code civil gabonais est disponible sur Internet. Le livret 1 et le livret 2, il y a deux livrets. Là, vous trouvez là-dedans le droit des enfants, le droit de la femme, le droit de la famille, les adoptions et tout le reste, la répartition des charges dans le couple. Et il y a plein de choses dans le droit civil. C'est le droit du citoyen. Dans le droit civil, quand on parle d'héritage, on parle premièrement des enfants, du conjoint vivant, donc l'homme ou la femme qui est resté vivant, et du père et de la mère s'ils sont vivants. Okay. Les frères et la sœur ne sont pas héritiers, sauf cas particulier, sauf testament, voilà. Par exemple, tu ne peux pas déshériter complètement tes enfants au Gabon. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas dire, je prends tout mon héritage, je donne à mon frère. La loi interdit ça. C'est un testament qui est nul. C'est une parenthèse. Donc, même la loi des hommes nous enseigne que le père et la mère ont une place importante. Et Exode chapitre 20 nous rappelle ça. Honore ton père et ta mère, ta famille. Mais les chrétiens prennent l'argent, donnent à l'église et ils n'honorent pas leur famille. C'est grave.
C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Moi, je pense peut-être que c'est le manque d'enseignement, comme tu disais tout à l'heure, que mon peuple périt par faute de connaissances. Le peuple n'est pas enseigné comme il faut. Et pourquoi? Parce que même ils veulent gagner derrière le peuple. Ben, peut-être c'est ça aussi.
Mais Edmond, je suis d'accord, hein, y a une double responsabilité. Il y a la responsabilité que nous, en tant que dirigeants d'église, nous avons.
Oui.
Mais il y a aussi la responsabilité du peuple.
Oui.
Des chrétiens, j'aime pas trop le mot peuple, de chaque disciple de Jésus. Oui. La Bible me dit, dans Actes 11, que les chrétiens de Bérée examinaient tout ce que Paul leur enseignait.
Amen.
Actes 17, 11, je crois. Je crois Actes 17, 11. Qu'ils examinaient tout ce que Paul leur enseignait, pour voir si cela était conforme aux Écritures. On nous dit qu'ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Donc, c'est un choix qu'ils avaient fait de pouvoir examiner tout ce que Paul leur enseignait. Les chrétiens aujourd'hui ne veulent plus examiner.
Amen.
Quand on lit Matthieu 24, Jésus dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lise fasse prenne garde, fasse attention. Bon, il parle de celui qui lit. Ça veut dire que tu es un lecteur, donc tu es avisé parce que la Bible annonce ces choses. Il y a des chrétiens qui ne veulent plus lire la Bible. Même une fois par semaine, ils ne veulent pas. Ils prennent seulement la Bible le dimanche, ils ouvrent ça en assemblée. C'est tout. Après, ils referment. Donc, c'est aussi leur responsabilité. Donc bref, pour revenir, Jésus va dire, mais car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Oui, quand on parle de maudire son père et sa mère, la malédiction, c'est quoi? Quelqu'un qui souhaite la mort de son père et de sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Il est béni ou il est maudit?
Il est maudit.
Il
Il
est
est
maudit,
maudit.
n'est-ce pas?
Amen, il est maudit.
Mon père et ma mère sont sorciers, je leur lance le feu pour qu'ils meurent. Feu sur mes ennemis, feu sur mon père, feu sur ma mère qui est sorcière, feu sur ma mère qui est sorcière, sur mon père qui est sorcier. Qu'ils meurent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les maudissent. Oui, Jésus dit qu'on ne doit pas le faire. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc cet acte-là, ça annule la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'offrande que tu pars donner là, ou la dîme, ou je ne sais pas comment on appelle ça là, ça annule la parole de Dieu. Donc ça veut dire que ça ne va pas porter de fruits. C'est une semence qui est jetée sur une terre aride, que Dieu ne va pas arroser, que Dieu ne va pas agréer. Et c'est pourquoi on a beaucoup de chrétiens qui sont frustrés, qui sont dans les églises, mais Dieu ne les bénit pas. Et après, ils finissent par abandonner la foi. En fait, ils offrent l'offrande de Caïn. La Bible nous dit que Caïn va offrir son offrande. Abel aussi va offrir son offrande. Mais Dieu va prendre plaisir à l'offrande d'Abel, mais pas à l'offrande de Caïn. Et qu'est-ce qui va se passer? Son visage va devenir tout triste. Et Dieu va lui dire, le péché se couche à ta porte, domine sur lui. Mais qu'est-ce qui va se passer? Caïn va faire quoi? Il va aller tuer son propre frère. La jalousie était rentrée dans son cœur. Frère, on ne doit pas abandonner nos familles. Et on ne doit pas s'abandonner. Il peut arriver que Dieu te dise, ce que tu as comme économie, partage-le. Ça, c'est biblique, on a vu des exemples. Mais Dieu ne peut pas demander à quelqu'un de prendre l'argent du sac de riz que les enfants doivent manger demain, lui demander de donner, et puis Dieu ne pourvoit pas. Si Dieu te demande de donner, prends les 5 000 que tu as prévus pour acheter le sac de riz demain, et que demain Dieu ne t'a pas donné quelque chose à manger pour que tes enfants mangent et que tes enfants meurent de faim, que tu es obligé d'aller demander aux voisins, ce n'était pas Dieu qui t'a parlé. Ce n'est pas Dieu. Si Dieu te demande de donner tout ce qui te reste et que tu as des charges que tu dois honorer, qui sont des charges incompressibles, tel que payer ton loyer, et que tu te retrouves, le loyer n'est pas payé, que tes enfants n'ont rien à manger, c'est que ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu honore celui qui l'honore.
Amen.
Ce n'est pas Dieu. Alléluia.
Amen, amen.
Donc, frère, on doit veiller. Autant nous aimons le Seigneur, autant nous voulons donner pour l'œuvre de Dieu, autant nous devons être sages dans la façon de faire. Sages dans la façon de faire. Prudents dans la façon de faire. La Bible nous parle de cette capacité-là d'amasser. Vous voyez? Et on a la sagesse de Joseph. Joseph va interpréter le songe des pharaons, les deux songes successifs de Pharaon. Dans le premier songe, Pharaon va voir des vaches maigres qui vont venir et qui vont manger les vaches qui étaient grasses. Ensuite, il va avoir une autre vision de 7 épis qui étaient bien gras, bien remplis, qui vont être dévorés par 7 épis qui étaient chétifs. Et Joseph va comprendre que il y a 7 ans d'abondance qui vont arriver et il y a 7 ans de famine qui vont arriver. Qu'est-ce que Dieu a donné comme sagesse à Joseph? Qu'il fallait préparer les temps de famine qui devaient arriver. Mais les temps de famine arrivent dans la vie de tous les hommes.
Amen.
Si on ne prépare pas les temps de famine pour demain, le premier temps de famine, c'est lequel? Qui est simple? La retraite. Tu ne travailleras plus. Tu n'auras plus de salaire. C'est un temps de famine. Quelqu'un qui touchait 300 000 de salaire, sa retraite, ce sera peut-être Je ne sais pas combien, mais je ne vais pas m'aventurer à calculer. Ce sera peut-être 60 000. Ou peut-être 50 000 ou 70 000. Je ne sais pas combien ça se calcule la retraite. D'accord? Ben, il n'aura plus le même pouvoir d'achat. En même temps, son corps aura vieilli, son corps va demander maintenant les médicaments, peut-être la tension, l'inactivité de ne plus aller au travail et tout le reste, rester à la maison, tout ça, le corps va réagir d'une certaine façon. Il faut qu'il prépare ça. La Bible nous dit que Abraham va préparer l'endroit où on va l'enterrer. Il va acheter une demeure où on va pouvoir mettre son corps. Alléluia, c'est important.
Amen, amen, frère, amen.
Vous voyez? C'est important. C'est important. Préparer les temps de famine. Edmond, tu voulais dire quelque chose? Si tu as quelque chose à partager, vas-y.
Oui, juste ajouter dans ce que tu dis, frère, c'est que le sujet est vraiment primordial. Nous devons vraiment prendre conscience que ce n'est pas parce que nous avons accepté le Seigneur que nous allons maintenant passer le temps, lui tout donner dans l'Église. Non, nous devons penser aussi, comme dit la parole de Dieu, à laisser d'abord les choses de la tradition et nous en occuper de notre famille. Parce que la parole de Dieu dit que si nous ne faisons pas ces choses, comme dit le passage, si quelqu'un n'a pas soin de des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Donc on comprend déjà là que même par là, que si nous ne prenons pas soin de nos familles, on a renié la foi. Et si nous renions la foi, frères, sœurs, c'est la mort. Et nous sommes infidèles. Donc nous devons vraiment, vraiment veiller sur ça, à ne pas tomber dans le piège du diable. Nous devons veiller d'abord sur notre famille pour commencer. Même si les patries, il y a toujours les parents qui parlent. Et tel ne donne pas, ou bien l'église, tel ne donne pas, il y aura toujours le murmure, mais on doit marcher selon la parole. Et j'ai constaté que parfois aussi dans les assemblées, parfois quand tu veux peut-être poser des questions dans ces genres de sujets, on va pas peut-être te répondre, ou bien on va te rejeter, on va dire que tu es rebelle. Parce que en posant ces questions, on va penser que tu as creusé, tu as cherché et tu as découvrir la vérité. Donc, on va peut-être dire que, comme tu as découvert la vérité, tu deviens rebelle parce qu'on comprend que le monde n'aime pas la vérité. Quand tu dis quelqu'un la vérité, on te dit que non, tu es sauvage. Et c'est tout ça. Le monde doit vraiment veiller sur ça. Donc, c'est un peu
Alors,
ça.
est-ce que tu peux nous prendre Proverbe chapitre 6? Proverbe chapitre 6, à partir du verset 6. Proverbe chapitre 6. C'est vraiment. On n'est pas en train de dire aux chrétiens de ne plus donner. Je le rappelle, je suis moi-même dirigeant d'église. Donc, tu liras du verset 6 jusqu'au verset 9.
Proverbe 6, à partir du verset 6. Va vers la famine, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson. De quoi manger?
Amen.
Amen.
Donc ici, on nous parle de la sagesse de la fourmi qui sait préparer les temps où il n'y aura plus rien à manger pour amasser ce qui est nécessaire pour survivre jusqu'à la prochaine saison, quand l'hiver sera passé pour recommencer à manger. On nous parle à l'école de la récitation de la cigale
Et la
et la
fourmi.
fourmi.
Oui.
Hein, une fable de La Fontaine. Voilà. Donc, frères et sœurs, soyons prudents, soyons sages. Marchons par le Saint-Esprit. Celui qui marche par l'Esprit fera les choses par l'Esprit, poussé par l'Esprit, pour que ça puisse porter des fruits de l'Esprit. Moi, je refuse de croire qu'un chrétien se sacrifie pour le Seigneur et que le Seigneur ne l'honore pas. C'est pas possible. Je ne crois pas en ça. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, pas du tout. Je ne crois pas en cela. Donc, pour ceux qui veulent intervenir, si vous voulez appeler pour participer, vous pouvez appeler au 074 23 17 29 au 074 23 17 29. Voilà, vous pouvez appeler si vous souhaitez intervenir en direct, poser une question ou une réaction à ce qui est dit. Voilà, on remarque aujourd'hui, hein, il y a des femmes qui prennent l'argent de la popote, comme on dit chez nous, l'argent de la nourriture, le budget de la nourriture, pour les donner à l'église. Et il y a des couples qui sont en chamaillerie, en discorde, à cause de parfois ce genre d'agissement-là, en fait. C'est des choses qu'il faut qu'on arrête. C'est vraiment compliqué. Donc, voilà un peu. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. L'idée aussi, ce n'est pas d'être trop long. On a pu aborder la question, parce que c'est un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, donc il était aussi important de pouvoir le partager là. Voilà. Donc, on voit bien aussi dans le passage de Matthieu 5, hein, qu'un frère m'a donné tout à l'heure, où on nous parle d'aller déposer son offrande à l'autel, que si tu veux déposer ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, dépose ton offrande. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les offrandes qu'on a à la main que forcément il faut aller déposer. Voilà. Parfois, il peut y avoir un point de blocage qui fait en sorte que ben, l'offrande là ne va pas dans le panier. Voilà. Ça peut être un problème qu'on a avec quelqu'un, un problème que tu as avec ton père, avec ton frère, ta sœur. Quand on dit ton frère là, ce n'est pas seulement frère en Christ, hein, c'est tout le monde. Ici, quand on parle de frère, les Juifs étaient considérés tous comme étant frères les uns des autres. C'est ça en fait. Quand on dit frère, c'est ton frère juif qui est avec toi. C'était ça en fait. Voilà. Donc que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé. Si on n'a pas de réaction en direct, on va pouvoir terminer le partage. Aide-moi un mot de fin. Si...
Ouais, c'est dire seulement, c'est de consulter l'Écriture comme les chrétiens libérés. Parce que on constate vraiment que l'Église aujourd'hui, il y a beaucoup d'ignorance et l'Église n'est pas enseignée dans la profondeur. Donc vraiment, c'est de consulter et poser beaucoup de questions. Que telle chose veut dire quoi, telle chose veut dire quoi. Parce que s'il n'y a pas aussi de questions, le peuple va rester comme ça, on va se regarder. Et même si le pasteur ou bien la personne qui est devant, il pourra faire les choses comme il veut parce qu'il n'a pas, il n'y a pas de questions. On ne peut même pas lui poser des questions. Mais s'il y a des questions quand même, ça pourra éveiller la conscience de l'Église. Et c'est un peu ça.
OK. Alors, demain... Si Dieu permet, demain à 18h, enseignement en direct sur la dîme. La dîme est-elle biblique, oui ou non? Et si oui, comment la pratiquer? Sinon, comment pratiquer le donner dans l'Église? Voilà, c'est long, je ne pense pas qu'on va tout terminer. Demain, on va d'abord aborder la question des dîmes. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur les dîmes? Donc l'émission sera en direct. Vous pourrez appeler demain. Donc là, aujourd'hui, nous sommes en direct. Nous sommes le jeudi 19 septembre. Donc l'émission, ce sera demain, donc vendredi 20 septembre, en direct sur Radio Réveil à 18h.
Vendredi 19 septembre. Nous sommes au 18 aujourd'hui.
On est au 18, c'est ça?
Oui.
OK, d'accord. Donc vendredi 19 septembre, nous serons en direct sur Radio Réveil pour l'émission sur la dîme. On va pouvoir décortiquer selon la parole que nous disent les Écritures sur la dîme. Voilà. Une fois de plus, il n'est pas question ici de dire qu'on ne doit plus donner dans les églises, mais c'est important de savoir qu'est-ce qu'on donne, que dit la Bible et comment donner réellement pour ne pas se faire une espérance qui n'est pas conforme aux Écritures. Alléluia.
Amen, amen.
Voilà. Donc que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé et à demain si le Seigneur le veut.
Shalom.